Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. C'est une première sur le littoral des Alpes-Maritimes. Les deux prochains week-ends seront confinés et les commerces de plus de 5000 m² devront baisser le rideau. Première expérimentation en France d'une approche territoriale de la lutte contre l'épidémie. On y reviendra avec les grandes voix à partir de 18h30. Et alors que nos rêves d'évasion et d'horizons lointains sont cloués au sol ces derniers temps, je reçois ce soir le PDG de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial. Il prône l'instauration de certificats sanitaires électroniques plus souples et plus consensuels peut-être qu'un passeport vaccinal. Il nous expliquera pourquoi. Et puis entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club des Idées d'Europe Soir. On s'intéressera aujourd'hui aux avis des consommateurs sur Internet, que ce soit pour une location de vacances ou même l'achat d'un robot ménager. Ces avis sont-ils vraiment fiables? N'y a-t-il pas anguille sous roche? Comment se prémunir des faux avis? Que dit la loi? Et quel est leur impact sur la consommation? On en débattra à partir de 19h20. Mais avant cela, c'est l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h. Merci à vous d'écouter Europe 1.
Pour les deux week-ends à venir, les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale. Cette mesure prendra effet dans la zone définie le vendredi soir à 18h et jusqu'au lundi matin à 6h.
Ainsi parle le préfet. Confinés les deux week-ends prochains, les habitants de Côte d'Azur savent désormais ce qui les attend pour les 15 prochains jours.
Reconfinement local inédit qui s'accompagne d'autres mesures comme la fermeture des commerces et des galeries marchandes de plus de 5000 m².
Le détail de ces restrictions dès le début de ce journal avec notre correspondant et la réaction des habitants et des commerçants entre résignation et lassitude.
L'autre grand titre de la soirée, c'est Sanofi, le laboratoire français qui annonce enclencher la phase 2 de son propre vaccin contre le virus.
Et puis... Eh bien non, pas encore une fois. Il pose le casque, Daft Punk se sépare, le duo qui a exporté la musique électronique française, la French Touch, met un terme à 28 ans de carrière.
Et on vous en parlera évidemment dans ce journal. Autre grand titre, 2 mois de prison avec sursis requis contre l'infirmière soupçonnée de violence. Les images de son face-à-face avec les policiers lors des manifestations des Gilets jaunes avaient fait le tour des réseaux sociaux.
L'Algérie secouée par son peuple et par sa jeunesse. 2 ans après le départ du président Bouteflika, les Algériens estiment que rien n'a vraiment changé. Les hommes changent, mais pas le système. Alors, ils redescendent dans la rue.
Et puis le 15 de France a 2 adversaires désormais. L'Écosse dimanche et le Covid qui rôde en ce moment à Marcoussis. Déjà 10 joueurs sur le flanc. On est à 6 jours du rendez-vous avec les Écossais.
La Bourse de Paris termine presque à l'équilibre. Moins 0,11% à 5 767 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
C'est le retour du soleil demain.
Oui, bonne nouvelle. Effectivement, le soleil va briller sur une grande partie de la France. Nous aurons toujours quelques petites pluies résiduelles dans le sud où il a plu très fort, notamment sur les Cévennes. Et les températures en hausse. Demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les Niçois se doutaient bien qu'il allait se passer quelque chose, c'est-à-dire devoir rester à la maison les 2 prochains week-ends.
Et oui, cette mesure est censée endiguer la vague de contamination qui touche, vous le savez, le département. 500 personnes tombent malades du Covid chaque jour, d'après les chiffres du ministre de la Santé. Nice, Cannes, Menton, en réalité une grande partie des Alpes-Maritimes devra donc rester confinée pour 2 week-ends consécutifs. Ça va commencer le vendredi soir et jusqu'au lundi matin. C'est donc la principale mesure. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant permanent dans la région.
Oui, et effectivement, ce confinement décidé pour les 2 prochains week-ends sera reconduit si nécessaire. Il prend effet à partir de ce vendredi 18h jusqu'à lundi 6h du matin. De Menton à Théoule, en passant par Vence ou Grasse, la population sera autorisée à sortir pour se rendre chez un médecin, faire des courses alimentaires, promener les animaux de compagnie ou faire du sport, mais dans la limite d'une heure et dans un rayon de 5 km. Vous ne pourrez pas en revanche aller chez le coiffeur ou acheter des chaussures et vêtements en boutique. Dès demain, les galeries marchandes de plus de 5000 m² seront également fermées, à l'exception des magasins alimentaires et des pharmacies. Et dans les commerces ouverts, la jauge passe de 10 à 15 m² par client. Les contrôles vont aussi être renforcés aux frontières, dans les gares et aéroports, et des tests PCR aléatoires seront organisés. Et pour les Français qui désirent se rendre sur la Côte d'Azur, il n'y a pas d'interdiction formelle à partir du moment où le couvre-feu et le confinement du week-end sont respectés. Mais le préfet des Alpes-Maritimes invite les vacanciers à décaler leur séjour en attendant des jours meilleurs.
Alors évidemment, comment réagissent les habitants et aussi les commerçants, Frédéric ?
On a attendu tout le week-end la fumée blanche, donc la population s'est préparée à ces nouvelles restrictions. J'ai rencontré cet après-midi plusieurs personnes entre Nice et Cannes. Il n'y a pas d'opposition directe, mais vous allez l'entendre, j'ai surtout ressenti une grande lassitude.
Les chiffres sont mauvais, donc il faut agir.
C'est difficile pour les personnes qui ont une activité toute la semaine et qui, le week-end, vont se retrouver enfermées. C'est long.
Moi, je comptais sortir avec mes amis, faire des soirées, tout ça. Et du coup, avec le confinement, c'est compliqué de profiter, tout ça. Mais bon, si c'est pour le bien de la population, écoutez, il faut le faire. Hein, on n'a pas le choix. Hein.
C'est pas suffisant. Il faudrait confiner totalement. Comme ça, au moins, on est débarrassé. Ça sert à rien de faire les choses à moitié.
Et il y a aussi parfois, vous l'entendez, des interrogations sur la méthode. Michel vend des robes et costumes de mariée sur un des grands boulevards de Cannes. Samedi, son rideau restera baissé, alors qu'habituellement, c'est une très bonne journée.
Aujourd'hui, malgré les restrictions, malgré toutes les interdictions, on reste encore sur un virus hyper virulent et hyper présent. Donc, est-ce que la méthode de restriction est la bonne méthode pour enrayer le virus? Il n'y a plus de mariage, plus de cérémonie, plus de restaurants, plus de boîtes de nuit. Et pourquoi on est toujours aussi malade?
Voilà, une méthode également contestée par certains élus. Tous, comme à Nice, n'applaudissent pas hein, ces nouvelles restrictions. Mais tous sont d'accord pour dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure en termes de vaccination. D'ailleurs, le préfet a annoncé la livraison aujourd'hui de 4 500 doses de vaccins supplémentaires.
Merci beaucoup Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1. Alors, est-ce la bonne méthode? Je poserai la question à 18h30 aux grandes voix d'Europe 1. Et pendant ce temps, au Royaume-Uni, Boris Johnson, lui, desserre un peu l'étau. Le Premier ministre vient de présenter son plan de déconfinement aux députés.
Un plan qui tient en 4 étapes avec notamment la réouverture des écoles le 8 mars et les commerces non essentiels à partir du 12 avril. Le gouvernement britannique qui envisage de lever les dernières restrictions d'ici fin juin. On y reviendra largement dans le journal de 19h. Et en Allemagne, on en est encore loin, mais les écoliers ont repris le chemin de l'école primaire dans 10 régions sur 16, malgré là les craintes d'une troisième vague.
Chez nous, du côté des vaccins, on ne sait pas encore si Sanofi va pouvoir rattraper son retard, mais en tout cas, le laboratoire français donne l'impression de vouloir accélérer.
Il vient d'annoncer le début d'un nouvel essai clinique de phase 2, une étape indispensable pour espérer trouver un vaccin, Manuel Lutel.
Oui, Sanofi doit prouver que son vaccin est efficace. Après son premier échec, il a tout simplement revu sa copie. Il y avait un problème de concentration du vaccin qui le rendait assez peu protecteur sur les plus âgés. Là, en interne, on se dit convaincu que les résultats vont être excellents. Le résultat de cette étude est attendu justement au deuxième trimestre. Chez Sanofi, on parle même du mois de mai. Et si les tests sont concluants, il faudra faire ce que l'on appelle maintenant des tests de phase 3. Et là, ça pourrait se compliquer parce que ça peut être assez dur à faire. Mais tout le monde se veut confiant et espère rapidement un vaccin, comme Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'industrie. C'était récemment sur Europe 1.
Septembre-octobre, pas décembre.
Alors chez Sanofi, on préfère quand même toujours dire attention, d'ici à la fin de l'année. En tout cas, en attendant, le groupe va mettre à disposition son usine de Marcy-l'Étoile près de Lyon pour produire cette fois le vaccin de Johnson & Johnson. Les premières doses sortiront à partir du troisième trimestre. Il faut en effet adapter l'usine, hein, c'est pas si simple que ça. Sanofi espère reproduire 12 millions de doses par mois. Des doses qui viendront s'ajouter à celles de Pfizer qui seront produites cette fois à compter de cet été dans l'usine allemande de Sanofi.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Dans l'actualité également, 2 mois de prison avec sursis requis à l'encontre de cette infirmière qui avait lancé des projectiles contre les policiers.
Ah, c'était en marge d'une manifestation des soignants à Paris en plein Covid, mobilisation pour obtenir plus de moyens, et les images de son interpellation par les policiers avaient fait le tour des réseaux sociaux. Et cet après-midi, elle a donc profité de l'audience pour en faire une tribune et exprimer le mal-être des soignants, Marion Dubreuil.
Oui, à la barre, Farida témoigne de sa frustration, sa colère, ce 16 juin 2020, en pleine crise du Covid. « Je travaille en gériatrie et on a perdu », elle se reprend, « j'ai perdu la moitié de mes patients, 20 personnes au total », souligne la présidente. Le jet d'un pavé en direction des policiers, un geste symbolique contre l'État, explique-t-elle, sans intention de faire mal, mes mains ne blessent pas. Elle soigne. L'infirmière de 51 ans admet avoir adressé des doigts d'honneur aux forces de l'ordre, mais elle ne reconnaît pas les insultes que les policiers lui prêtent. D'ailleurs, la procureure a demandé sa relaxe pour ces injures et pour la rébellion alléguée lors de son interpellation, une scène que le tribunal a décomposée à travers 5 vidéos. Il y a des manières de dénoncer les conditions de travail que vous déplorez et qui sont déplorables, la reprend la juge. Mais ce sont des hommes et des femmes face à vous. Est-ce que vous pouvez imaginer les conditions de travail des policiers ? Ce sont des fonctionnaires comme moi, reconnaît l'infirmière, qui regrette son geste et s'adresse directement au commissaire qui a déposé plainte contre elle. Je ne voulais pas vous blesser. Elle ajoute avec amertume, nous sommes en train de démonter le service public. La seule violence que je connais, c'est celle de l'hôpital.
Marion Dubreuil au tribunal correctionnel de Paris, jugement le 3 mai. À Montfort-sur-Meux, en Bretagne, la justice ouvre une information judiciaire pour disparition inquiétante.
Mais cela fait 15 jours que Magali Blandin, une éducatrice de 42 ans et mère de 4 enfants, n'a plus donné de nouvelles. Plusieurs battues et le sondage de 2 cours d'eau environnants n'ont jusqu'à présent rien donné.
En Algérie, la rue ne désarme pas et continue de réclamer des comptes au pouvoir. pouvoir en place.
Des milliers de manifestants ont envahi les rues du centre d'Alger, mais aussi d'autres villes du pays. Une célébration pour fêter le deuxième anniversaire du soulèvement populaire qui avait conduit à l'époque à la démission du président Bouteflika. Mais aujourd'hui, les Algériens ont le sentiment que rien n'a vraiment changé. Nour Chahine.
Les pancartes étaient de sortie au centre d'Alger. Ils étaient des milliers à manifester à l'occasion du deuxième anniversaire du Hirak. Les slogans sont les mêmes qu'il y a une année. « Rien n'a changé », nous dit cette manifestante, malgré la libération la veille de plusieurs détenus d'opinion, graciés par le président de la République.
Normalement, on ne va même pas aux prisons. Donc on n'appelle pas ça une réussite, parce que de base, ce n'était pas nos revendications. Nos revendications, c'est une vraie justice. C'est-à-dire la liberté d'expression, c'est un droit, c'est notre droit, et ils nous ont volé ce droit. Bon, maintenant, ils prennent comme si c'était un exploit, mais ils ont libéré les détenus. Alors les détenus d'opinion, ils sont obligés de le faire parce que c'est leur droit et ils n'ont rien fait de mal.
Il ne faut surtout pas parler de célébration pour Nadir ou Amel, deux étudiants pour qui le Hirak a repris de plus belle.
Ce qui motive, c'est pas la célébration du 22 février. Pour le 22 février, alors ça va continuer le 23, le 24, j'espère qu'ils vont partir.
Un peu plus de droits, nous sommes vraiment dans un vrai pays de la Hougra. Dans tous les domaines, c'est la grande Hougra. On a besoin d'être libérés. Liberté !
La Hougra ou la répression n'aura pas eu lieu durant la manifestation. L'important dispositif sécuritaire déployé depuis plusieurs jours déjà a pu empêcher les débordements.
Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Alger, Nour Chahine. Et puis à Bagdad, en Irak, on apprend ce soir que l'ambassade des États-Unis a été visée par 3 tirs de roquettes. C'est la 3e attaque contre des intérêts occidentaux en Irak en une semaine.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h12 sur Europe 1, c'est la suite de votre journal, Christophe Lamarre. Et c'est l'un des groupes qui a popularisé la musique électronique en France et dans le monde. Tout le monde connaît Daft Punk. Eh bien, Daft Punk se sépare.
Oui, la French Touch, comme on l'a appelé, rarement la musique française sera autant exportée et elle le doit en partie à ce duo. Daft Punk faisait autorité dans le milieu de l'électro. Alors pourquoi s'arrêter? On pourrait s'en étonner, mais Angèle Châtelier, est-ce que cette séparation est vraiment une surprise?
Eh bien, oui et non, Christophe. Non déjà, puisque les Daft Punk, formés en 1993, n'ont pas sorti d'album depuis 8 ans. C'était Random Access Memories, avec leur célèbre Get Lucky, un album vendu à presque 4 millions d'exemplaires dans le monde, récompensé de 5 Grammy Awards. Alors, 8 ans, oui, c'est long. On pourrait croire que leur séparation était attendue, mais en réalité, en 28 ans d'existence, les Daft Punk n'ont sorti que 4 albums. Le premier, c'était Homework en 1997, avec l'un de leurs premiers succès, Around the World. Il y a eu Discovery, Human After All, mais il y a eu entre 4 et 8 ans entre chaque album. On aurait donc pu croire qu'un nouveau était dans les tiroirs, d'autant qu'il y avait eu des rumeurs sur leur retour récemment. Un nouvel album en mai, une bande originale de film et même une prestation au Super Bowl. Mais alors dans une vidéo de 8 minutes publiée aujourd'hui sur leur page YouTube, difficile d'y croire. Au milieu, deux chiffres s'affichent, 1993-2021, sur une musique d'ambiance et des images de leur film Electroma. Et ce qui ne laisse absolument pas planer le doute, c'est le nom de cette vidéo, Épilogue, qui n'est autre que la fin d'un discours.
Merci Angèle Châtelier. On est bien triste ce soir, on les aimait bien, les Daft Punk.
Ouais.
Merci Angèle. Du côté du 15 de France, de rugby maintenant, c'est pas vraiment non plus la fête ce soir.
Ils n'en sont pas encore à se séparer, mais enfin quand même, 5 nouveaux joueurs testés positifs ce matin. Décidément, à chaque jour, son lot de nouveaux contaminés. On rappelle qu'il y a quand même un match contre l'Écosse dimanche, mais enfin, Corinne Boulou, à ce rythme, ça va finir par devenir compliqué, non?
Oui, parmi les nouveaux noms qui sont venus s'ajouter à la liste de ceux touchés par le virus, le capitaine du 15 de France, Charles Olivon, le pilier gauche, Cyril Bailly, et l'arrière, Brice Dulin. À ce jour, 14 personnes au sein de l'équipe et de l'encadrement sont touchés par le virus, dont le sélectionneur Fabien Galthié, testé positif 2 jours après la victoire en Irlande. 10 joueurs donc à l'isolement. 8 d'entre eux étaient même titulaires face à l'Italie et l'Irlande. Alors, bien évidemment, la question d'un éventuel report du match face à l'Écosse dimanche prochain au Stade de France va se poser. Le comité destination vient d'annoncer qu'il se réunira mercredi pour examiner la situation. Assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs et encadrants est notre priorité numéro 1, dit ce soir l'instance dans un communiqué. Si la décision devait aller dans un sens du report, le match serait planifié à la date la plus proche possible, précise le comité. En attendant, 5 joueurs ont encore été appelés en sélection pour remplacer les joueurs indisponibles. Le protocole sanitaire a été renforcé à Marcoussis. Joueurs seuls en chambre, même pour les repas. Et test PCR désormais tous les jours. La Fédération française de rugby espère un retour à l'entraînement collectif mercredi, sous réserve, bien entendu, des résultats des tests quotidiens.
Rendez-vous mercredi donc. Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1 dans le journal de Christophe Lamarre, que l'on retrouve à 19h bien sûr pour un nouveau point sur l'info. La tendance météo, on vous retrouve Anissa Haddadi. Et demain donc ce sera calme et ensoleillé.
Oui, avec encore tout de même, Isabelle, tout au long de la journée, des petites pluies sur le Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon, il a beaucoup plu aujourd'hui. On a eu un épisode Cévenol assez important avec des pluies très abondantes. Ça va se calmer, mais demain, nous aurons encore des averses. Sur le reste du pays, le temps est calme, vous le disiez. Attention tout de même demain matin sur la Normandie, l'Alsace et la Gironde. Attention, grisailles matinales qui vont très vite se dissiper. Puisqu'au fil des heures, c'est le soleil qui s'impose et qui va briller généreusement sur les trois quarts du pays. En fait, il fait beau partout, sauf sur le golfe du Lion, où là nous aurons encore des averses. Et puis sur la pointe bretonne, du côté du Finistère, ça sera un petit peu plus couvert avec là aussi le vent qui va souffler assez fort. Avec ce beau soleil, les températures, elles remontent. 2 à 12 degrés demain matin, 2 à Belfort, 6 à Bordeaux, 8 à Clermont-Ferrand, 11 degrés à Paris demain matin et 12 à Marseille. Et puis dans l'après-midi, 13 pour Brest, c'est la minimale, 15 à Dunkerque et Montpellier, 16 à Lille, 17 pour Ajaccio et Poitiers, 18 à Paris et Marseille et 20 degrés la maximale pour Biarritz et Montluçon.
Ah oui, c'est chaud quand même pour
c'est
la
doux,
saison.
C'est très doux.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure
à
un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h19, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir le PDG de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes également vice-président du CETO, hein, c'est le syndicat des tours opérateurs.
Exact.
Alors habituellement, les Français qui le peuvent, qui en ont les moyens, aiment bien s'offrir un séjour au soleil ou vers des horizons lointains pendant ces vacances de février. Là forcément c'est raté, on ne voyage plus, en tout cas plus en dehors de l'Union Européenne et même au sein de l'Europe. Hein, c'est pas facile et c'est une catastrophe évidemment pour l'ensemble du tourisme. On en parle régulièrement sur Europe 1. On l'a encore constaté la semaine dernière avec le plongeon d'Air France KLM qui a perdu plus de 7 milliards d'euros l'an dernier. Comment vous en sortez-vous aujourd'hui? On rappelle que Voyageurs du Monde, c'est une agence spécialisée dans le voyage sur mesure, hors des sentiers battus.
Alors nous, on s'en sort assez bien parce qu'on a des grandes réserves qu'on a accumulées pendant 25 ans de bénéfices successifs. Donc ça va.
C'est rare d'entendre ce discours.
Ouais, non mais faut... Je dirais que je représente ma profession. Ma profession est sinistrée, c'est une catastrophe. Nous, on ne s'en sort pas trop mal parce que je vous dis, on est solide financièrement. Mais ce que je vous disais tout à l'heure hors plateau, c'est qu'on est en baisse d'à peu près 95% de notre activité là. Donc ça ne peut pas durer éternellement. Alors le gouvernement nous aide, c'est bien. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous aide de façon lisible et pérenne. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un système où on nous annonce les aides d'un mois après l'autre. Au fil de l'eau, il suffit de dire, voilà, tant que l'activité ne reprend pas, vous avez droit à ça, 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 et c'est clair, c'est net et c'est précis, parce que c'est un peu la double peine pour nous, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité sur l'activité, parce qu'ils ont fermé les frontières, très bien, il faudrait au moins qu'on ait une visibilité sur nos coûts, parce que ça permet aux entrepreneurs comme ça de s'organiser, et par exemple d'éviter les licenciements inutiles.
Ouais. Mais est-ce que vous trouvez quand même que le gouvernement, globalement, gère bien cette crise?
Alors, sur le plan économique, je trouve qu'il gère plutôt bien cette crise. Après, sur le plan sanitaire, je me garderai de jugement, même si j'ai beaucoup d'avis là-dessus. Parce
alors,
que c'est un
on
sujet
va en parler
qui m'a
passionné. Du point de vue sanitaire, mais du point de vue économique d'abord.
Du point de vue économique, il gère plutôt bien cette crise. Franchement, les PGE, le chômage partiel, les aides sectorielles.
Les PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Hein.
Voilà, on peut critiquer que ce n'est pas assez précis, que ça ne va pas assez vite. Que les décrets sortent trop tard. Bon, ça oui, mais globalement quand même, ils gèrent très très bien cette crise. Que ce soit le président Macron qui a dit quoi qu'il en coûte, Bruno Le Maire, Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre référent. Franchement, globalement, on ne peut pas dire qu'ils ne gèrent pas bien cette crise sur le plan économique. Ça serait intellectuellement malhonnête.
Bon, je le disais, aujourd'hui pour voyager, c'est très 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 compliqué. Pour vous, fermer les frontières internationales, ça n'est pas la solution. Vous dites que pour empêcher un virus de rentrer, il n'y a rien de mieux que l'avion.
Ce n'est pas tellement ça que je dis. Enfin, ça c'est vrai aussi, mais c'est surtout que je dis que si vous voulez empêcher le virus de rentrer par des frontières, la meilleure façon de le vérifier, c'est de le vérifier dans les points d'accès uniques, c'est-à-dire les aéroports. Vous faites un test à l'embarquement, vous faites un test au débarquement, c'est le ceinture et bretelles, double contrôle. Il y il y a zéro risque de rentrée de virus par les frontières aéroportuaires. Par contre, quand vous laissez les frontières européennes ouvertes, même si vous devez faire un test PCR obligatoire, les frontières européennes terrestres, évidemment que tout passe. Donc, si vous voulez, cette mesure me paraît inadaptée sur le plan sanitaire. Maintenant, de toute façon, je ne vais pas leur faire changer d'avis. La décision est prise. C'est une mesure que je trouve qui devrait être inversée, c'est-à-dire que soit vous fermez la France totalement, c'est-à-dire les frontières européennes incluses, les frontières terrestres européennes incluses, et là, très bien.
Ça, vous savez que c'est compliqué,
voire impossible. Ça, c'est très compliqué, ouais. C'est même probablement absurde. Soit vous fermez toutes les frontières européennes en même temps, mais toutes les frontières européennes en même temps, et vous faites une politique sanitaire commune. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Donc en fait, bon, on voit bien que ces mesures sont assez peu efficaces, quoi.
Alors vous le savez, Jean-François Rial, le débat qui monte en ce moment, c'est le fameux passeport vaccinal qui nous permettrait de voyager de nouveau, de retourner peut-être aussi au restaurant et qui est réclamé par de nombreux pays pour qui le tourisme est vital, mais qui est controversé. Vous-même, vous dites que ce n'est pas exactement un passeport vaccinal qu'il nous faut. Pourquoi ?
Non, mais le passeport vaccinal, je pense, c'est une vraie mauvaise idée. Là-dessus, je partage l'avis de Lemoine, notre ministre. Si vous voulez, le problème, c'est que... L'outil devient une politique, c'est-à-dire que vous commencez à dire que ceux qui sont vaccinés ont le droit de voyager ou de rentrer dans un restaurant, etc. Or, aujourd'hui, vous avez chaque pays dans le monde qui a sa propre politique. Certains disent « je veux une sérologie positive », d'autres « je veux un vaccin », d'autres disent « je veux un test PCR et une sérologie négative », etc., etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas un passeport vaccinal, il faut créer un document électronique que vous appelez comme vous voulez, nous on l'appelle « certificat », sanitaire, mais on peut tout à fait l'appeler autrement si ça déplaît aux uns et aux autres, dans lequel vous stockez toutes les données, vos vaccins, vos tests PCR, votre sérologie, et en fonction de ce que vous demande un pays ou un restaurant ou une croisière, eh bien, vous présentez ces documents qui soient d'ailleurs lisibles, mais non stockables par celui qui les lit. Donc, on évite la problématique de la propriété des données, de la propriété privée, etc., etc. C'est ça qu'il faut, c'est un document électronique qui collecte vos données pour pouvoir s'adapter à chaque situation.
Mais ça changerait quoi vraiment sur le fond par rapport au passeport vaccinal ?
Ça change tout. Ça change tout parce que votre passeport vaccinal, il ne fonctionne pas pour un pays qui ne vous demande pas un vaccin, pour rentrer, qui vous demande un test PCR.
Un test PCR, effectivement, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas du tout. Et la plupart des pays dans le monde, ils demandent ça.
Et ça serait donc la solution, ce certificat sanitaire électronique, pour relancer les voyages petit à petit ?
Ça serait une solution qui permettrait de fluidifier, de s'adapter à toutes les politiques sanitaires de tous les pays du monde entier. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, où on parle du vaccin, mais il y a plein de gens qui vous disent que le vaccin n'est pas une garantie de non-contamination. Il y en a qui vous disent que le vaccin n'est pas une garantie de durée, etc. etc. Donc on ne va pas en sortir de ce débat éthique, philosophique, sanitaire, technique.
Et débat aussi sur les libertés individuelles.
Voilà, débat sur les libertés individuelles, etc. Donc si vous avez un document électronique qui vous collecte tout ça et qui s'adapte à la politique de chacun, de toute façon, ce n'est pas nous les Français, ni même les Européens, qui ont dicté notre politique aux Chinois, aux Américains, aux Brésiliens ou aux Taïwanais. C'est
et
pas
vous
sérieux.
Qui avez l'oreille du ministre, vous lui en avez parlé de ce certificat
Alors,
que vous prenez ?
Je lui en ai parlé, pas directement, mais j'ai noté que ce matin, dans une interview, il se rapprochait de cela parce qu'il rejetait le passeport sanitaire, et je partage plutôt son avis, et il disait « je préférais un document qui collecte les tests PCR ». Mais là, encore une fois, il va plutôt dans le bon sens, notre ministre, Jean-Baptiste Lemoine, mais il ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut non seulement mettre les tests PCR, mais il faut aussi mettre le vaccin sur le document en question. Parce qu'il y a des pays comme les Seychelles, par exemple, ou l'Islande, qui vous réclament d'être vaccinés. Donc on va leur demander quoi, ces gens ? On va leur demander de se balader avec un papier qui va traîner, etc., etc. Et on va nous parler de propriété de données, alors qu'en fait, quand vous donnez un papier, un test PCR, ou un vaccin, vous donnez aussi votre information à celui qui la contrôle, la compagnie aérienne, la police aux frontières, etc. Donc tout ça, c'est du cirque. Il faut se moderniser. Et ça serait quand même bien que la France aille assez vite pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où tous les pays du monde ont commencé à faire ça, mais pas nous.
Merci beaucoup. Merci Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, d'avoir été notre invité ce soir en direct sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h30, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Sanofi va produire le vaccin de son concurrent américain Johnson & Johnson. Le laboratoire français devrait fabriquer environ 12 millions de doses par mois à destination de la France et de l'Europe. Sanofi qui a annoncé parallèlement le lancement de la phase 2 des essais cliniques de son propre vaccin. Il porte sur 720 volontaires de plus de 18 ans, une ultime étape de la phase phase 3 est prévue en mai ou juin prochain, avant la demande de mise sur le marché. Boeing demande aux compagnies aériennes de clouer au sol son 777 le temps de l'enquête. Après l'incendie d'un moteur ce week-end au-dessus du Colorado, un nouveau coup dur pour le constructeur qui venait tout juste d'obtenir il y a quelques semaines le retour en vol de son appareil star, le 737 Max, lui aussi immobilisé après deux accidents mortels. Et puis le Texas se remet lentement de la vague de froid historique qui l'a durement frappé. Une cinquantaine de personnes sont mortes de froid et plusieurs milliers de foyers restent privés d'électricité ce soir. Le coût des réparations est estimé à 50 milliards de dollars. Mais c'est la hausse des tarifs de l'électricité dérégulée dans cet état du Sud qui provoque la colère. Certains opérateurs ont multiplié leur prix par 300. Ainsi, certains foyers doivent s'acquitter d'une facture de 600 euros d'électricité par jour.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa, soleil et douceur pour demain, c'est
sûr. Douceur particulièrement puisque les températures vont encore grimper demain après-midi grâce au retour du soleil. Nous aurons 13 à 20 degrés demain après-midi, 13 degrés pour Brest, 15 à Dunkerque, 17 degrés pour Nice et Toulouse, 18 degrés à Paris, 19 à Lyon. Et la maximale est prévue avec 20 degrés pour Montluçon dans l'Allier ou encore Biarritz. Le matin, il fait un petit peu plus frais, 2 à 12 degrés, 2 pour Strasbourg, 4 à Dijon et Pau. 6 à Lyon, 10 à Nîmes, 11 degrés déjà demain matin à Paris et 12 pour Marseille. Alors en début de journée, le ciel est nuageux sur la moitié ouest. Et puis au fil des heures, le soleil va s'imposer sur les trois quarts du pays. Et bien s'imposer, il n'y aura pas beaucoup de nuages demain. Sur la Bretagne et le golfe du Lion, encore un petit peu de nuages et notamment des averses sur le Languedoc-Roussillon encore. Mais ça sera allé. C'est le dernier jour et après on part sur une autoroute du printemps. Ça va être pas mal pendant plusieurs jours.
Ah, j'aime bien le concept moi, de l'autoroute du printemps. Merci Anissa. À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
À 18h32 sur Europe 1, comme tous les soirs, on ouvre maintenant le débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta, le politologue Pascal Perrineau et l'historien Jean Garrigue. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci de m'accompagner ce soir. Je voudrais d'abord qu'on aborde ces nouvelles restrictions qui ont été annoncées à la mi-journée par le préfet des Alpes-Maritimes. Premier confinement territorialisé depuis le début de la crise sanitaire.
La situation épidémique actuelle impose également une restriction des déplacements et donc un confinement partiel. Le cadre sera celui que nous avons connu durant le confinement du mois de mars. Les sorties seront autorisées pour les personnes munies d'une attestation et pour des motifs dérogatoires.
Voilà, le préfet des Alpes-Maritimes qui annonce donc un confinement partiel pendant deux week-ends au moins, de nouvelles restrictions concernant aussi les commerces de plus de 5000 m², un coup d'accélérateur de la campagne de vaccination, des contrôles renforcés aux aéroports et à la frontière italienne. C'est tout à fait nouveau, hein, les grandes voies, de faire des distinctions entre les départements. Est-ce que ça vous semble être une bonne solution, Pascal Perrineau ?
Oui, ça me semble être une bonne solution quand on regarde comment ont pu faire certains de nos voisins. Qui ont pratiqué ces confinements localisés. C'est vrai que, si vous voulez, la Covid ne choisit pas de progresser sur le même rythme dans tous les territoires. Et donc, toute stratégie nationale qui consiste à mettre les départements où il y a peu de circulation du virus, peu touchés, avec des départements extrêmement touchés, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et depuis le début, certaines voix minoritaires disaient il faudrait davantage régionaliser, en s'articulant en particulier sur le diagnostic qu'ont les élus locaux sur le terrain. C'était par exemple, dès mars dernier, la stratégie qui était un peu celle de Jean Rottner, le président du Grand Est, lui, à Mulhouse et dans son département, l'épidémie d'ailleurs partir à l'époque.
Et plus récemment, on a vu ça en Moselle ou à Dunkerque.
Tout à fait.
Aussi,
Et là, on voit bien que les élus niçois, maintenant depuis des semaines, disent attention. Nice et l'agglomération niçoise connaissent des taux de contamination extrêmement élevés. Les hôpitaux sont encombrés et donc il faut agir et agir localement. Donc cette stratégie locale d'un confinement, par exemple, qui éventuellement durerait quelques jours pour essayer de ramener la moyenne de la diffusion du virus, qui est le variant anglais, surtout, dans les Alpes-Maritimes, dans une moyenne régionale et nationale, me semble être une assez bonne stratégie.
Michel Cotta, est-ce qu'on peut imaginer que ça va devenir la nouvelle stratégie, la nouvelle tactique dans les régions les plus touchées, que les Alpes-Maritimes soient en fait le laboratoire d'une nouvelle stratégie de territorialisation des mesures sanitaires?
C'est tout à fait possible, mais il faut bien dire aussi que le niveau d'incidence était 3,5 plus important que dans la France entière. Donc ça pose quand même un problème. Donc je suppose que ça doit dépendre aussi des taux d'incidence. Et là, effectivement, pour Nice, et puis il y a une façon de vivre à Nice. Je vous parle en régional de l'étape. Hein. Bon, il y a une façon de vivre qui est absolument antinomique avec le masque,
le confinement, le masque,
la distanciation sociale. Oui, c'est vrai qu'on on se met en rond sur les galets et on croit qu'on ne s'infecte pas. Bon, donc, effectivement, il y avait besoin d'un tour de vis, mais je pense qu'il y a besoin d'un tour de vis sur la côte en général. Et d'ailleurs, la même chose se passe en Italie, sur la côte aussi.
Alors, il y a peut-être effectivement une spécialité niçoise, je ne sais pas, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre quand même en place, parce que vous l'évoquiez, hein, Pascal Perrineau, cette stratégie plus tôt? Pourquoi, par exemple, en Moselle ou à Dunkerque, Jean Garrigue, où les élus pourtant réclamaient des mesures plus strictes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça?
Moi, je fais partie de ceux qui, dès le début, pensaient que la solution, ce serait la territorialisation. D'ailleurs, au début, quand on a eu un cluster dans l'Oise, on a été bien obligé, à un moment donné, d'avoir comme ça une politique plus locale. Et puis, très vite, on l'a abandonné pour des mesures plus centralisées. Ça fait partie aussi de notre culture jacobine. Hein. Et puis, ça fait partie aussi du principe d'égalité qu'on a très souvent mis en avant. Mais, en l'occurrence, moi, je pense que la solution est là. Bon, c'est beaucoup plus naturel chez les Allemands, chez les Italiens, chez les Espagnols même. On voit bien qu'il y a des mesures qui sont prises ville par ville ou province par province, ou État par État en Allemagne. Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, avec la situation à Nice, c'est tout à fait justifié de prendre des mesures qui sont au petit point sur une situation locale. C'est vrai qu'on est étonné que ce type de mesure n'ait pas été prise en Moselle, mais j'imagine quand même que le préfet, les autorités sont en consultation permanente avec non seulement les élus locaux, ce qui est important, et là, les élus locaux ne sont pas tellement d'accord, ils voudraient justement des mesures plus fortes, mais aussi avec les professionnels de la santé. Et donc je pense qu'il doit se passer là une sorte de concertation permanente, je l'espère en tout cas, qui explique que les décisions ne soient pas les mêmes qu'à Nice.
Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un lien entre le poids politique des élus locaux et cette décision? Michel Cotta, avocat de la région, Renaud Muselier, le président de la région PACA, monté au créneau, Éric Ciotti, Christian Estrosi. En Moselle et à Dunkerque, les élus aussi sont montés au créneau, mais eux...
Oui, mais il y a le précédent de Marseille qui a beaucoup joué quand même dans tout ça. C'est-à-dire, vous vous rappelez, quand on a commencé à confiner ou à fermer
les bars et les restaurants
les bars de Marseille,
plutôt qu'ailleurs en France.
Immédiatement, inégalité de traitement et tout ça. Et alors là, on est tombé dans l'excès inverse. Après, on a dit, ah ben ça, si on peut pas faire, s'il n'y a pas d'égalité, on peut pas... Bon, voilà, c'est une réflexion qui est venue avec Nice. Et puis, il faut ajouter aussi une chose, c'est que Nice est une ville où il y a beaucoup de vieillards, il y a beaucoup de vieux. Par conséquent...
Oui, mais qui commencent à être bien vaccinés, pour le coup.
Voilà, qui commencent à être bien vaccinés, mais qui posent un problème parce qu'il n'y a pas que le Covid qui les touche. Il y a toutes les autres maladies. Donc, c'était vraiment vital pour le service de santé de Nice.
Oui. Et ils sont même un tout petit peu en dessous en termes de taux de vaccination pour les populations à risque, par rapport au taux français. Donc, il est urgent, là aussi, je pense, qu'un effort de vaccination...
C'est pour ça que le préfet a annoncé, d'ailleurs, une accélération de la campagne, de la stratégie vaccinale, puisqu'on met un coup d'accélérateur, 4500 doses supplémentaires du vaccin Pfizer et des doses massives du vaccin AstraZeneca. Donc, effectivement, c'est une stratégie globale. Mais est-ce que tout ça, encore une fois, Pascal Perrineau, ne donne pas quand même une impression de réaction à défaut d'anticipation?
Oui, parce que depuis le début, et ce n'est pas simplement sur cet enjeu de santé publique, depuis le début de ce quinquennat, la relation entre le terrain, les territoires et le pouvoir central est difficile. Et même parfois extrêmement difficile. Et ça a commencé très vite. À peine le pouvoir était-il élu, en juin 2017, que les relations ont été difficiles. Or, les capteurs les plus pertinents de ce qui se passe sur le territoire, ce sont les élus locaux. Et on le voit bien dans les réactions de l'AMF, les maires, de l'ADF, les conseils départementaux, de l'ARF, les régions. Voilà, ça n'est pas, j'allais dire, ce ne sont pas des relations très faciles entre ces associations et le pouvoir central. Mais je crois qu'il faut en sortir et puis dépasser ce que Jean Garrigue disait à l'instant, dépasser notre tropisme centralisateur, notre culture jacobine, quoi, hein, qui considère en effet que tout doit descendre d'en haut et irriguer le territoire national dans une démarche totalement égalitaire. Mais c'est absurde, parce que lui, le Covid, il ne descend pas d'en haut dans une démarche égalitaire sur tous les terrains. Donc la réponse est forcément quelque peu inadaptée. Et c'est vrai que les pays fédéraux, les pays beaucoup plus décentralisés, sont plus agiles d'une certaine manière, ont une agilité plus grande.
Alors, juste un mot, les grandes voix aussi sur Emmanuel Macron qui a fait appel, je ne sais pas si vous avez vu ça forcément, à McFly et Carlito, les youtubeurs, pour réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières. C'est une bonne idée qu'il a eue là, le président de la République, Jean Garrigue, oui, Michel Cotard oui. Je ne sais pas, allez-y.
Oui, moi je trouve que c'est pas mal fait d'ailleurs, c'est pas mal réalisé. Je voudrais juste répondre quand même à Pascal Perrineau. Vous avez tout à fait raison sur le local, mais comme vous savez, il y a des maires qui ne sont pas d'accord dans des endroits, y compris dans les Alpes-Maritimes, par exemple, puisqu'on prend cet exemple-là, il y a des maires qui ne sont pas d'accord, et les maires notamment de la montagne ne sont pas du tout d'accord. Donc c'est vrai que de temps en temps, le jugement vient d'en haut, mais il vient d'en haut parce qu'en bas, on ne se met pas d'accord aussi.
Oui, oui. Mais il y a aussi, vous savez, cette conception qui est incroyable en France de tous ceux qui représentent le pouvoir central. Eux, ils savent. Les autres seraient englués uniquement dans des intérêts particuliers. Je crois qu'il faut sortir, si vous voulez, de cette coupure entre un centre qui serait le seul porteur de l'intérêt général et les périphéries qui seraient engluées dans les intérêts particuliers. Je crois que c'est un peu plus compliqué que cela.
On a bien compris. Je n'ai pas eu beaucoup de succès avec McFly et Carlito. Jean Garrigue, bonne idée, juste en un
mot. Je pense que c'est une bonne idée de toucher un public qui, justement, est par principe réticent à toutes ses obligations et qui est avide de liberté, sachant que les jeunes savent aussi trouver des moments d'intersociabilité, comme on dit. Donc, c'est plutôt une bonne idée de les toucher par le biais de ceux qu'ils ont l'habitude d'admirer et d'écouter.
Oui. On se retrouve dans un instant, les grandes voix. On parlera de cette expression qui revient beaucoup dans l'actualité ces derniers jours, islamo-gauchisme. On a vraiment besoin de comprendre et je compte sur vous. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h45, c'est la suite de notre débat des grandes voix du lundi sur Europe 1. Toujours avec Michel Cotard, toujours avec Jean Garrigue et toujours avec Pascal Perrineau. On discutait un peu pendant la pub, c'est normal. Je voudrais qu'on revienne avec vous, les grandes voix, sur ce débat qui agite l'enseignement supérieur et la classe politique depuis plusieurs jours. En fait, depuis que la ministre Frédérique Vidal a dévoilé son intention de demander une enquête au CNRS sur l'imprégnation de l'islamo-gauchisme au sein de l'université, afin, a-t-elle dit, de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Alors j'aimerais vraiment, vraiment qu'on essaye de ne pas hystériser le débat, parce qu'on a vu que ça partait un peu dans tous les sens ce week-end, et surtout qu'on comprenne bien de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne très bien ce qu'ils disent, et ça tombe bien, j'ai deux universitaires avec moi qui vont nous aider à y voir posément, à y voir clair. On va faire ça de façon sereine. D'abord, expliquez-moi vraiment de quoi parle-t-on, qu'est-ce que ça veut dire l'islamo-gauchisme, Pascal Perrineau.
Écoutez, c'est quelque chose sur lequel des chercheurs ont travaillé il y a bien longtemps, à l'époque où il n'y avait pas cette hystérie. Aujourd'hui, où tout se dit et donc rien ne s'entend. Hein. Il y a eu en France Pierre-André Taguieff qui, dans un livre qui s'appelait « La nouvelle judéophobie », a constaté un phénomène qu'il a qualifié de cette nature, islamo-gauchiste, en disant, voilà, autour de la solidarité d'une partie du gauchisme avec le combat des Palestiniens, on voit dans certaines organisations, et il parlait surtout de la Ligue communiste révolutionnaire, l'ancêtre du NPA d'aujourd'hui, on voit des convergences, des luttes en commun entre cette frange du gauchisme et l'islamisme engagé. Ce qui fait que dans certaines manifestations, on s'est mis à entendre ensemble l'international et les cris de Allah Akbar. Vous voyez, ce qui, a priori, n'était pas tout à fait évident. Et puis, du côté militant, et là depuis beaucoup plus longtemps, en Grande-Bretagne, en 1994, il y a un universitaire qui était très engagé, très militant, trotskiste, là aussi. Il appartenait au petit Parti socialiste des travailleurs, et qui s'appelle Chris Harman, hein, et qui a écrit un petit libelle qui s'appelle « Le prophète et le prolétariat », dans lequel il développait une analyse que l'on retrouve, bien sûr, dans une partie du mouvement gauchiste en France, qui consiste à dire, dans le combat contre l'impérialisme, le capitalisme, l'État qui est à leur service, il y a des convergences à développer entre les révolutionnaires qui défendent le prolétariat et ceux qui considèrent que le prophète est insulté, les islamistes. Hein. Et cela doit l'emporter, disait Chris Hardman, sur les distances qu'il peut y avoir entre ces deux mouvements, là où les islamistes, je vous cite, sont dans l'opposition, nous devons être avec les islamistes, avec l'État, jamais. Donc les choses sont claires, c'est bien un phénomène qui existe. Alors de là à dire qu'ils sont partout, qu'ils dirigent toutes les universités, non, il faut...
Alors pourquoi cette expression est-elle à l'origine d'une telle polémique parmi les intellectuels et la classe politique, Jean Garrigue ?
Alors, moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Pascal. Première chose, c'est quelque chose qui vient du milieu des trotskistes britanniques, à l'origine, bon, et qui est ensuite analysé par Pierre-André Taguieff.
Ça, c'est récent, c'était en 2002, Pierre-André Taguieff.
Voilà. Hein, ouais. Il est vrai qu'existe aujourd'hui, dans les universités françaises ou dans les instituts d'études politiques, que connaît bien Pascal, il existe un certain nombre d'associations, de militants aussi, de syndicalistes et étudiants, qui ont pris notamment fait et cause pour la cause palestinienne et de ce fait se sont rapproché leur extrême gauche des positions islamistes. Ça a été très bien expliqué. C'est une maladresse insigne de la part de la ministre, me semble-t-il, d'avoir posé le problème en ces termes parce que j'ai l'impression qu'elle recouvrait par ce terme d'islamo-gauchiste beaucoup d'autres choses qui sont en train d'imprégner aussi l'université française, à savoir l'indigénisme, le postcolonialisme, les analyses de genre, qui sont en train de donner, si vous voulez, une grille d'interprétation scientifique à peser sur l'ensemble des recherches d'une manière qui est un tout petit peu, et même très, très souvent, orientée. Et c'est au fond, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle avait un peu en tête, et donc qu'elle a un peu mélangé tout ça. Je pense que la fameuse manifestation dans laquelle Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ont participé à cette manifestation sur l'islamophobie et ont montré qu'un mouvement politique d'ampleur comme lui pouvait se rapprocher de ses thèses. Tout ça a joué dans cette espèce de mayonnaise là qui a monté. Mais c'est quelque chose qui existe dans l'université française qu'on ne peut pas nier.
Et que vous constatez, vous-même, qui êtes universitaire.
Bien sûr que l'on peut constater.
Mais comment, concrètement?
Mais qui n'est pas systémique. Et donc
je vous donne la parole dans un
instant,
Michel Cotta. Mais puisque j'ai deux universitaires sous la main, qu'est-ce que vous constatez, vous, concrètement, dans vos enseignements, dans
la multiplication, par exemple, des études sur ces thématiques, sur les thématiques dont je viens de parler, et aux références que l'on peut trouver dans ce type de travaux. On le constate à la fermeture d'un certain nombre de champs de recherche à ceux qui ne pensent pas comme cette doctrine-là, comme cette doxa. On le constate à un certain nombre d'éléments, d'événements qui ont eu lieu. Lorsque Sylviane Agacinski, par exemple, n'a pas pu aller faire une conférence à Bordeaux, ouais. On voyait bien que des petits clans un peu minoritaires, comme ça, pouvaient influer sur l'organisation générale de l'université. Mais je le répète, d'abord, il y a eu mélange, vraiment, autour de cette histoire d'islamo-gauchisme. Mélange, confusion des genres de la part de la ministre. Et puis, deuxièmement, c'est une erreur de systématiser ce qui, pour l'heure, est un mouvement dangereux, qui pourrait être dangereux intellectuellement, mais qui pour l'instant n'est que marginal, à mon sens.
Michel Cotta.
Ils ont tout dit, tous les deux. Mais ce qu'il faut surveiller tout de même, et moi c'est en ça où je ne donne pas complètement tort à la ministre, je lui donne tort sur le moment où elle l'a dit, sur la façon... Mais le problème est de savoir si... moi ça ne me gêne pas qu'on s'occupe du colonialisme, de l'anticolonialisme. Ça ne me gêne pas qu'on s'occupe du racisme dans les sciences sociales. Au contraire, je trouve que c'est important. Nous avons tous connu le colonialisme. C'est normal. En revanche, ce qui me gêne, c'est qu'il ne peut y avoir que ça. La diversité doit être... On doit assurer la diversité dans les recherches. Et on doit s'assurer que les chercheurs qui sont, par exemple, très anti-islamiques, ont autant de crédit que ceux qui se rapprochent des islamistes. Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire.
Et aujourd'hui, ils ne sont pas totalement libres, ces enseignants-chercheurs ?
Non, on dit
non.
Par exemple...
Non, la question essentielle, Michel a tout à fait raison. Question du pluralisme.
Ils ont des crédits ailleurs, c'est la question. Ils ont des crédits ailleurs. On sait que certains chercheurs n'ont pas de crédit en France. Bon, voilà, c'est minoritaire, c'est tout à fait minoritaire. Mais qu'elles le disent, encore une fois, elle aurait mieux fait de le dire ailleurs, mais ça ne me paraît pas attentatoire absolument à la liberté de l'université, c'est plutôt le contraire.
La gauche crie à la chasse aux sorcières. 600 enseignants ont signé une pétition. Ils réclament la démission de la ministre de l'Enseignement supérieur. Jean Garrigue.
J'allais dire, elle les a provoqués. Elle a été un peu leur idiot utile, comme on dit. Je veux dire qu'en posant le problème de cette manière, frontale, un peu caricaturale, forcément, elle s'attirait une réaction. Et une réaction qui, par certains côtés, manquait d'objectivité vis-à-vis de la réalité des choses. Nier le problème est aussi grave que le poser d'une manière caricaturale comme elle l'a fait, à mon sens. Parce que ce problème existe, parce qu'il existe un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, de laboratoires de recherche qui sont assez sensibles à ces idées. Pas forcément d'ailleurs à celle de l'islamo-gauchisme, mais à la montée en puissance de ces grilles d'analyse fondées sur la race, sur le sexe, sur le genre, ben vous avez quelque chose là qui risque de devenir hégémonique et d'empêcher justement ceux qui ne pensent pas comme il faut.
Mais les accusations de militantisme, j'ai l'impression que ça a toujours existé.
Il y a une intolérance qu'on voit, alors qu'il n'est pas dans les recherches, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une intolérance chez les organisations étudiantes, quand on voit que l'UNEF arrive à faire des conversations entre hommes et puis des réunions entre femmes, que sa présidente est voilée. Ouais. Bon, on voit bien, il y a une atmosphère d'intolérance. À Sciences Po, franchement, je sais qu'on connaît cette école les uns et les autres, mais quand Finkielkraut ne peut pas arriver et ne peut pas parler, ça, franchement, ça pose un problème.
Mais cette atmosphère tendue, elle n'existait pas déjà dans les années 80 avec les trotskistes,
bien sûr,
avec
si vous voulez. Dans le domaine des sciences sociales, il faut bien voir. On dit sciences sociales. Enfin, ce ne sont pas des sciences comme la science physique. Et donc, bien sûr, les affects, les passions de chacun sont extrêmement présents dans les travaux. Et moi, quand j'étais étudiant, à la fin des années 60, par exemple, le marxisme structuraliste était extrêmement présent. Et de temps en temps, j'avais l'impression non pas d'être à l'université, mais d'être dans une cellule, je ne sais pas quoi, des jeunesses communistes, vous voyez, par exemple. Hein. Bon. Mais d'abord, le débat était d'assez grande qualité. Il y avait tout de même des hommes comme Althusser, Poulantzas. Là, on a l'impression parfois que c'est des débats portés, du moins sur le terrain français, par des petits maîtres et des tout petits maîtres. Et d'autre part, on a eu des acquis dans les années 80-90 dans l'université française. Peu à peu, le pluralisme a fait des progrès. On pouvait discuter. Et là, on a l'impression, à nouveau, depuis quelques années, qu'une doxa, une opinion dominante s'est établie et il faut rester dans les clous. Si vous sortez des clous, vous êtes ostracisé, vous allez le payer dans votre carrière, etc. Parce qu'il faut bien voir derrière tout ce qu'il peut y avoir comme stratégie assez minable.
En tout cas, moi, quand je vous écoute ce soir, je me demande si ça mérite qu'on en parle autant.
Peut-être
Jean Garrigue.
Peut-être pas, mais c'est une vraie question parce qu'évidemment, derrière ça, il y a des enjeux de pouvoir dans le monde universitaire et dans le monde
politique
intellectuel.
Oui, également.
Et puis, ça renvoie évidemment au grand débat politique. C'est le mélange qui n'est pas bon. Je veux dire qu'il y a un débat politique sur ce que peut être l'islamo-gauchisme, ce que peut être en tout cas la complaisance d'une partie du personnel politique français face à des thèses islamistes ou du radicalisme islamiste. Mais d'un autre côté, il y a cette sphère intellectuelle, les chercheurs, et le débat y a toujours existé. Donc il est bon de ne pas mélanger les deux sphères.
Merci, en tout cas, merci beaucoup. Vous aviez promis de ne pas hystériser le débat. On ne l'a pas fait, donc merci infiniment à tous les trois. On se retrouve très vite et dans un instant, c'est toute l'info avec le journal de 19h. A tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.